émission présentée par Gilles Frémont sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de cession de cabinet, stratégie de cession d'acquisition de cabinet immobilier, cabinet de syndic surtout, avec un spécialiste, notre invité Patrice Durand. Bonjour Patrice Durand.
Bonjour.
Alors Patrice Durand, vous êtes président du cabinet Approche et Stratégie Immobilière, c'est un cabinet qui existe depuis 2011. Avant vous étiez chez Galian, hein, vous étiez auditeur, directeur des risques, vous êtes également aujourd'hui encore formateur à la SOCAF, qui est une autre caisse de garantie, et à l'ESI, l'école supérieure de l'immobilier, l'école de la FNAIM. Formation initiale, formation continue, mais aujourd'hui on va parler de cession de cabinet, de stratégie. Il y a beaucoup de cabinets qui se vendent, on entend beaucoup de choses sur la concentration, les groupes, Foncia, Citia, qui rachètent massivement. On va parler de tout ça, sans langue de bois, mais surtout pour informer de comment ça se passe, de la réalité. Rapidement, donc les deux missions de votre cabinet.
Alors la première, c'est la cession, la cession de cabinet, donc l'accompagnement des vendeurs dans leur projet de cession. Et puis la deuxième activité, c'est une activité de conseil en organisation, essentiellement sur les métiers de gérance et de syndic.
Donc, sur la cession, c'est un peu comme un super agent immobilier, mais ultra spécialisé.
C'est ça.
Dans les ventes de cabinet.
Tout à fait.
Vous mettez en relation un acheteur en vendeur, mais évidemment, vous apportez du conseil.
Voilà, et tout ça basé sur une confidentialité totale. Parce que en fait, le vendeur, ce qu'il veut, c'est que il veut pas que les gens soient au courant de son projet de cession. Déjà leur personnel, parce que ça peut les inquiéter. Et puis donc il souhaite vraiment la confidentialité, très important.
Des cabinets comme le vôtre ultra spécialisés, il y en a beaucoup en France,
vous êtes une petite dizaine.
Ouais. De collègues qui font la même chose que vous.
Alors il y en a qui le font de façon plus accessoire, on va dire. Mais ceux qui sont les plus gros acteurs, on est à peu près une dizaine.
D'accord. Alors, on va parler un peu chiffres. En France, un ordre d'idée, combien de sessions de cabinet par an? Parce qu'on entend dire que les petits se vendent aux gros. Est-ce que vous avez une idée à peu près de combien de sessions?
Alors moi, je n'ai pas de chiffres sur la volumétrie. Et c'est, à mon sens, très compliqué. Parce que les professionnels de la cession n'ont pas l'intégralité, ne font pas l'intégralité des sessions. Il y a beaucoup de sessions qui se font gré à gré entre professionnels qui se connaissent depuis de nombreuses années et qui trouvent naturel de travailler ensemble sans avoir besoin d'un intermédiaire.
Alors on a quelques chiffres, hein, moi que j'ai. Foncia, c'est à peu près une soixantaine de rachats en 2023.
Ouais, je pense que Citia, ça doit être à peu près dans les mêmes eaux.
Citia, à peu près la même chose. Ouais. Est-ce que les deux trustent toutes les mutations ou est-ce que c'est à peu près équilibré?
Non, il y a beaucoup de transactions qui, encore une fois, échappent au groupe pour diverses raisons. Déjà, vous avez des dirigeants qui ne veulent pas céder à des groupes pour des raisons personnelles. Et puis, d'autre part, il y a parfois des cabinets qui n'intéressent pas les groupes. Je pense notamment aux cabinets qui sont dans des petites villes où là, il n'y a pas de possibilité pour les groupes d'agréger des cabinets et de pouvoir avoir la taille efficace pour, dans le cadre de leur gestion, en fait.
Ils rachètent à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, 1 million de chiffre d'affaires, par exemple.
Ça va dépendre de l'intérêt qu'ils peuvent avoir à agréger sur un autre cabinet. Hein, s'ils trouvent un cabinet qui a 90 copros, ça va quand même les intéresser parce qu'ils vont l'agréger sur un autre cabinet qui est déjà en place sur le secteur.
Peut-être aussi la qualité du portefeuille, la durée des mandats. Enfin, d'autres critères, on va en parler tout à l'heure.
Ça, c'est des critères qu'on étudie en amont quand on présente les dossiers. C'est-à-dire qu'on fait une étude sur tous les agrégats métiers, que ce soit au niveau de la gérance ou du syndic, de façon à pouvoir faciliter le chiffrage et l'estimation en fait du cabinet, puisque c'est ça qui va permettre de définir le coefficient qu'on va utiliser dans le cadre de la valorisation. Si par exemple on prend le syndic. Le syndic, on ne va pas avoir la même valeur si on a un portefeuille qui est essentiellement composé de petites copros, ou alors il va y avoir une grosse différence si on est en mandat d'un an ou en mandat de 3 ans. Hein, forcément, ça va avoir un impact sur le prix.
Alors ça, c'est sur le prix, on va y revenir tout à l'heure. Je voudrais parler des vendeurs, du profil des vendeurs. Donc là, on parle des indépendants. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des profils type? Est-ce que... Alors, pense bien sûr au départ en retraite, mais pas que. Est-ce qu'il y a d'autres raisons de vente ?
Alors, bien sûr, le profil majoritaire, c'est effectivement les gens qui partent à la retraite. Ensuite, il peut y avoir aussi des gens qui souhaitent changer de direction professionnelle et qui souhaitent donc passer à autre chose et donc qui vendent. Et puis, il y a aussi, malheureusement, les incidents de la vie, c'est-à-dire des discordances entre des associés qui font que ils veulent se séparer et que donc ils décident de céder.
On voit beaucoup de cabinets comme ça qui durent même pas 10 ans et qui se
vendent. Alors ce qui est très gênant dans ces situations-là, généralement, c'est que quand on a deux dirigeants, on en a un qui travaille essentiellement sur la partie transaction et puis l'autre sur la partie gestion au copro. Et donc quand ils vendent, la valeur elle est divisée par deux. Et donc on imagine bien que celui qui a développé toute la partie récurrente, qui est la gérance et le syndic, il va avoir une partie de son travail qui va partir au bénéfice de l'autre associé. Et forcément, ça se passe pas forcément très bien, quoi.
Ouais, c'est sûr, hein, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres motivations, notamment liées aux ressources humaines, la pénurie de collaborateurs, le patron qui en a marre de courir après des gestionnaires, de se retrouver avec des portefeuilles comme ça sur les bras?
Ouais, moi je vais revenir à ma propre expérience. Moi j'ai eu un cabinet au début de ma carrière professionnelle que j'ai revendu à 36 ans. Et pourquoi je l'ai vendu? Parce que j'étais arrivé à un point où, comme je disais, on gérait les bidons et les casseroles et que mon métier de base, je ne le faisais plus. Et donc, passer mon temps à gérer du personnel, ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait.
Et alors, c'était déjà à l'époque. Le phénomène s'est sans doute accru avec la pénurie de gestionnaires, de comptables.
La problématique du recrutement dans nos métiers est une motivation pour certains de vouloir arrêter, oui, certainement.
Alors, traditionnellement et historiquement, les cabinets d'administrateurs de biens se transmettent de père en fils, de père en fille, de mère en fille, depuis le 19e siècle. C'est l'administrateur de biens, l'homme de confiance, un peu notable, qui est dans le même cercle que le propriétaire bourgeois, que le notaire. On voit encore des cabinets familiaux avec le nom du cabinet, patronyme de l'arrière-grand-père.
Il y a même des groupes qui, quand ils rachètent des cabinets, ils gardent le nom.
Alors, est-ce qu'il y a encore cette tradition assez bien ancrée dans notre secteur d'activité de cession aux enfants, ou est-ce que ça se perd?
Non, c'est relativement fréquent encore. C'est relativement fréquent et là où on est sollicité de cette population-là, c'est surtout sur la valorisation. Parce que quand les parents souhaitent céder à leurs enfants, ils veulent partir sur une base de prix qui soit cohérente. Alors bon, certains donnent leur affaire à leurs enfants, ça arrive aussi, mais ça reste relativement fréquent.
Alors, justement, on parle de donner ou de vendre. Aujourd'hui, à combien ça se valorise, un cabinet de syndic? Est-ce que c'est en hausse ou en baisse? Mais déjà, comment on calcule le prix par rapport au chiffre d'affaires?
Alors, en fait, il y a eu une période que je vais estimer entre 2018 et 2022, où il y a eu une forte augmentation des prix.
Une euphorie
liée à l'appétence des groupes sur la croissance externe.
Donc 2018-2022.
Voilà. Et après, ça s'est un peu calmé parce que l'un des groupes a eu des problèmes d'intégration. Les autres l'ont su. Et donc forcément, les prix sont repartis à la baisse. Alors pour donner des coefficients qu'on pourrait qualifier d'actualisés au jour d'aujourd'hui. Alors ce qui est très difficile, c'est de donner une fourchette. Parce que ça va dépendre essentiellement, bien évidemment, de l'implantation géographique. Vous imaginez bien qu'un cabinet qui est sur Paris va avoir des coefficients beaucoup plus importants que celui qui est dans une petite ville de province. Donc ça, c'est le premier critère. Alors maintenant, on peut donner des amplitudes. Si je prends les cabinets de syndic, on peut estimer qu'on est entre 0,8 et 1,5 fois le chiffre d'affaires annuel.
D'accord.
Et en gérance, on est entre 1,8 et... parfois à Paris jusqu'à 3 ans de chiffre d'affaires.
D'accord. Il y a eu un décrochage vraiment depuis 2022? On a perdu quoi? 10 points
Non, on était monté. Moi, les plus beaux coefficients que j'ai vus, c'était 2 en syndic. Et c'était 3,5 en gérance. Donc c'est quand même pas anodin, la baisse.
Donc tout ça dépend aussi de la concurrence.
D'ailleurs, des clients que je suis depuis de nombreuses années qui voulaient vendre, qui ont retardé l'échéance et qui maintenant le regrettent un peu.
C'est sûr, c'est pas les mêmes prix.
C'est ça.
Quels sont, en quelques mots, les grandes étapes opérationnel
ouais.
D'une session.
Alors, bah déjà, c'est la valorisation, c'est le point de départ. Hein, c'est-à-dire que pour nos clients, on fait...
Combien vaut mon cabinet ?
C'est ça. Et on se met d'accord sur un prix. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur un prix, on va constituer le dossier de présentation qu'on va proposer donc à des acquéreurs potentiels, sachant que pour tous les acquéreurs, on va exiger une lettre de confidentialité, un engagement de confidentialité par rapport aux données qu'on va lui soumettre. Une fois que on a un candidat acquéreur qui est intéressé, bah vient inévitablement la rencontre avec le cédant, de façon à voir si le deal peut se faire, s'ils s'entendent bien, si ça passe. Et puis une fois que ces rencontres ont eu lieu, l'acquéreur va envoyer ce qu'on appelle une LOI, c'est-à-dire une lettre d'offre indicative, où il va reprendre les principaux critères d'accord sur la négociation de la reprise. Alors ça passe par le prix, bien évidemment, mais ça passe aussi également sur les conditions éventuelles de financement, sur les conditions de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle, sur l'accompagnement, combien de temps le cédant va devoir rester dans la structure, rémunéré ou pas, ça va dépendre des cas, et puis bien évidemment sur ce qu'on appelle la garantie d'actifs passifs, qui est une garantie délivrée par le vendeur sur les éventuelles diminutions de l'actif ou augmentation du passif qui serait liée à sa période de gestion et qui devra faire qui va donner lieu à un appel complémentaire de remboursement auprès du vendeur.
Ça prend combien de temps cette phase ?
Alors ça surprend toujours les gens entre le moment où on va décider de mettre en vente son cabinet et qu'on va avoir passé tout le processus, parce que là, j'en suis à la LOI, mais c'est pas fini. Hein. Après, il y a la signature du protocole,
mm-hmm.
et puis après, il y a la cession des titres, plus l'accompagnement derrière.
Mm-hmm.
Ce que je dis à mes vendeurs, c'est que vous partez sur une durée minimum d'un an, entre le moment où vous décidez de vendre, et puis le moment où vous allez quitter la structure.
D'accord. Ce qui est pas si long que ça.
Alors, ça peut être plus long, notamment en syndic, parce que, suivant la date à laquelle on vend, il y a toujours cette fameuse problématique des campagnes d'AG.
Bien sûr.
Évidemment que si le vendeur doit présenter son cessionnaire en AG, bah, il va devoir accompagner peut-être plus longtemps qu'en gérance l'acquéreur.
Alors, on va parler un peu plus technique. Il y a deux façons de céder sa boîte. Soit on cède les titres, soit on cède le fonds de commerce.
C'est ça.
Qu'est-ce qui se fait le plus souvent ? Qu'est-ce qui est le plus avantageux ? Qu'est-ce qui est le plus simple ?
Alors, j'ai envie de dire que la cession de fonds de commerce, elle est peut-être plus intéressante quand on veut faire une cession partielle d'activité. Arrêter l'activité syndic, par exemple, ou arrêter l'activité gérance. Alors, la cession de fonds de commerce, elle est intéressante surtout pour l'acquéreur, parce que dans ce cas-là, on va faire cadrer le prix avec le volume exact de mandat qui va être transféré. Ce qui n'est pas le cas dans le rachat de parts de société. Pour le vendeur, c'est l'inverse en termes d'intérêt. Lui, il a tout intérêt à vendre sa société, pour des raisons fiscales évidentes, et puis parce que y a pas ce qui se passe dans le cadre d'une vente de fonds de commerce, il n'y a pas à refaire signer tous les mandats. Mmh. Ce qui peut inquiéter le vendeur, à juste titre. Même si, par expérience, la mutation de fonds de commerce n'engendre pas des pertes phénoménal dès lors que le vendeur est un bon professionnel. Ça se passe relativement bien. Mais bon, pour l'acquéreur, c'est clair que vaut mieux acheter un fonds de commerce parce qu'encore une fois, on va payer uniquement les mandats qu'on récupère. Mais pour le vendeur, lui, il préfère vendre sa société pour des raisons fiscales et pour lutter contre la crainte de perdre des mandats.
On perd beaucoup de mandats quand on rachète
une
société ?
Non, c'est très rare. C'est très rare. Ça. Alors, le risque... Par contre, qu'il ne faut pas négliger, c'est le risque lié au fait que les collaborateurs s'en aillent et puis drainent une partie du portefeuille.
Alors
ça s'est vu.
On va parler des pièges.
Là, ça peut faire très mal.
Alors, raison pour laquelle d'ailleurs, dans les cabinets rachetés, l'acheteur fait signer de nouveaux contrats de travail aux collaborateurs
pas
avec
forcément.
Une clause de non-concurrence.
Pas forcément.
Assez sévère d'ailleurs.
Ouais, mais pas forcément, parce que quand on rachète une boîte, on est censé racheter le personnel avec les contrats de travail qui existent.
Alors
bon, maintenant, rien n'empêche de le faire. Hein, mais...
En revanche, il y a une clause de non-concurrence entre vendeur et acheteur. Le vendeur, peut pas rouvrir un autre cabinet dans le même secteur.
Eh ben, des fois,
une fois qu'il a vendu.
Des fois, si. C'est-à-dire que parfois, mais ça, c'est négocié en amont de l'acquisition. Le vendeur dit, bah voilà, je veux vendre mon cabinet, mais je veux avoir la possibilité de me réinstaller pas très loin pour maintenir l'activité. Si l'acquéreur est d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, contractuellement, on va engager le vendeur à ne pas solliciter la clientèle vendue pendant une durée de 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il ne pourra pas solliciter ses anciens clients.
Il ne peut pas récupérer ce qu'il a vendu.
Ça. C'est ça.
Voilà.
Bah, surtout qu'il l'a vendu cher, donc c'est légitime que l'acquéreur...
Par contre, il peut quand même s'installer à côté et capter d'autres immeubles.
C'est ça.
Mais... L'acheteur accepte ça ?
Dans certains cas, il accepte.
Généralement,
je pense notamment
très chaud.
À des groupes dont j'ai tiré les noms qui ont accepté ce type de
pour
situation.
Pour faciliter la transaction, peut-être, parce que c'était une condition
Et puis, du vendeur. J'ai un cas en tête où la personne a vendu son cabinet, s'est réinstallée et a revendu son deuxième cabinet au même groupe.
D'accord. Bon, c'est une façon aussi de grossir.
Et voilà.
Alors, là, on va peut-être parler un peu plus bonne pratique. Quels sont, selon vous, pour vous, qui avez l'expérience et qui avez vu post-mutation, cession, comment les choses se sont passées, pour vous, quelles sont les bonnes pratiques pour l'acheteur à adopter pour réussir son achat, le faire perdurer, voire le faire prospérer? Inversement, quels sont les pièges absolument à éviter?
Alors, bah les pièges, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est le risque par rapport aux collaborateurs, sachant que il y a les obligations d'information loi amont qui fait que le vendeur doit prévenir son personnel de la cession 2 mois avant la date de signature effective de cession. Donc ça, c'est toujours.
Là, on peut avoir des premiers départs déjà.
C'est ça. Donc ça peut être perturbant. Bon, même si le vendeur n'est pas obligé d'indiquer le nom de l'acquéreur, hein, il peut très bien informer seulement
son
soi-même.
Il y a les bruits qui courent après. Voilà. Beaucoup de spéculations.
Alors maintenant, dans l'approche de l'acquéreur, je pense que il y a un adage que j'aime bien utiliser, c'est que un cabinet immobilier, comme toute société d'ailleurs, c'est une voiture. Il faut jamais oublier que le personnel, c'est le moteur. Et il est difficile de faire avancer une voiture s'il n'y a pas de moteur. Donc, je crois que...
Il est même impossible.
Oui. Pour réussir une reprise, je pense qu'il est vraiment nécessaire de ne pas faire preuve de trop de brutalité avec le personnel au départ, de façon à ce qu'il ne voit pas trop de changements, même si dans l'esprit de l'acquéreur, il a forcément envie de changer les choses, mais pas les changer tout de suite, brutalement, parce que ça peut désarçonner le personnel et créer des tensions.
Donc pas changer concrètement, ça veut dire quoi? Garder l'agence, garder les mêmes
garder
binômes, garder le même logiciel.
Voilà, surtout ne pas imposer du jour au lendemain le nouveau logiciel, une migration informatique, dont on sait tous que la migration dans nos professions, ça se passe rarement bien. Hein. Il y a toujours des problèmes. Donc il faut y aller à pas compter, et surtout, encore une fois, sans brutalité.
Donc garder l'agence, par exemple, ça c'est quelque chose auquel les acheteurs, les groupes notamment, réfléchissent.
Non, ça c'est pas un critère.
Le lieu de travail, je veux dire. Hein.
Non, bah, pas forcément, parce que si on arrive à pouvoir octroyer aux collaborateurs des nouveaux locaux qui sont à la limite plus agréables que les précédents, bah, finalement c'est plutôt bien perçu. Mmh. Hein. Mais encore une fois, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, parce que, encore une fois, quand on a des collaborateurs qui sont dans le cabinet depuis 20 ans, 25 ans, on n'aime pas trop les choses qui changent, donc le changement, donc ça peut être dangereux.
Et puis, bah, rassurer les collaborateurs, rassurer également les clients, copropriétaires.
Tout à fait.
Ça se fait de plus en plus de garder le nom du cédant et la coller au sien.
Les groupes, quand ils rachètent des cabinets, ils mettent le nom du groupe et ils gardent le nom historique. Parce que un nom, c'est une histoire dans un cabinet. Et donc, quand on est en province, bah, un cabinet qui a pignon sur rue depuis quelques dizaines d'années, c'est pas très intéressant de changer de nom, quoi. Donc on y adosse les groupes, y adosse leur propre enseigne, mais encore une fois, souvent le nom est conservé.
Alors on voit des petits groupes aussi qui émergent, hein, des petits rachats. C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins. En tout cas, ça bouge beaucoup dans notre secteur.
Bah,
je
veux
pas dire qu'il soit sclérosé.
J'avais fait un calcul à une époque. Il y a 70% des dirigeants qui ont plus de 50 ans. Donc, ce qui veut dire que dans les années à venir, les sessions de cabinet, à mon avis, vont connaître un rythme assez soutenu.
Alors dans les fantasmes aussi qu'on a, fantasmes qui n'est pas toujours justifié, mais est-ce qu'on voit beaucoup de petits cabinets comme ça qui se montent juste le temps de faire la culbute pour se revendre ?
Oh, c'est assez rare. Franchement, c'est assez rare.
Mais ça existe.
Ça existe.
C'est quelque chose qui existe.
Et généralement, ça se perçoit assez rapidement parce que ce type de manœuvre conduit ces gens-là à vendre du mandat à des tarifs complètement cassés, mm-hmm. de façon à grossir rapidement. Mm-hmm. Et donc, quand on fait la valorisation et qu'on s'aperçoit qu'on est à 100 € du loueur taxe en copro, on comprend bien que c'est pas une boîte qui peut être rentable. Et d'ailleurs, quand on fait la valorisation pour nos clients, on l'a fait bien sûr avec la méthode des coefficients que j'évoquais tout à l'heure, mais on y associe une valorisation par le rendement. Parce qu'on va pas acheter à fonds de commerce équivalent, on va pas acheter une société dont la rentabilité est de 5% aussi cher qu'une boîte qui a une rentabilité de 20%. Puisqu'on achète, c'est du rendement quand même. Donc forcément, ça n'a pas la même valeur. Donc on associe ces deux méthodes. Et généralement, dans la plupart des cas, les deux valorisations sont relativement proches l'une de l'autre.
Et alors les levées de fonds massives de toute cette période, stratégie payante.
Les levées de fonds de la part des groupes, c'est quelque chose qui m'échappe un peu, c'est leur stratégie. Hein. Ce que je sais, c'est que pour les indépendants, il faut généralement avoir un apport de 20 à 30% minimum. Les financements se faisant sur une période de 7 ans. Ce qui est bien avec la baisse des coefficients, c'est que les banquiers verront les choses de façon plus positive. Parce que quand on était en 2022 et qu'on achetait des cabinets en gérance à 3,5 ans de chiffre d'affaires, certains banquiers étaient très réticents à financer. Mmh. Alors que là, on revient dans des prix qui sont un peu plus conformes à ce qu'on a connu historiquement. Mmh. Et donc là, le financement va être facilité.
Donc si moi, demain, Gilles Frémont, je veux acheter un cabinet, il faut quand même que je mette sur la table d'apport 20 à 30%.
Ouais. Idéalement, oui.
Donc, il faut les avoir.
C'est ça.
Après, il y a des montages avec des holdings qui permettent peut-être d'alléger
De toute façon...
Dans tous les cas, il faut un apport.
Le meilleur montage, c'est de constituer une holding pour acheter les titres et puis de faire une convention de prestation sur la société à racheter en tant que holding animatrice de façon à pouvoir faire le montage qui portera le financement, en fait. La holding, ça va être le véhicule juridique qui va porter le financement.
Et le cabinet racheté fait remonter les dividendes pour rembourser le prêt.
Ouais, mais alors il faut que ça soit de façon, il faut que ça soit vraiment une holding animatrice, hein, c'est-à-dire que il faut vraiment qu'il y ait un service effectif qui soit apporté par la holding sur la société. Ouais. Alors il y a bien évidemment le dirigeant, l'acquéreur, mais on peut aussi avoir des fonctions support, c'est-à-dire qu'on peut loger au sein de la holding le logiciel, sa maintenance, etc. etc. Il faut que ça soit justifié, on ne peut pas faire remonter de l'argent.
Il faut pas que ce soit une coquille vide.
C'est ça.
Qu'il y ait un objet, une activité.
C'est ça.
Écoutez, merci, c'est parfait.
Très
intéressant. Patrice Durand, donc je rappelle que vous êtes président du cabinet Approche et Stratégie Immobilière depuis 2011, donc cabinet spécialisé dans les cessions. Deux cabinets de syndic, cabinet
immobilier. Et les missions d'organisation, parce que j'insiste sur le fait que les missions d'organisation, je suis amené à en faire dans un projet de cession à moyen terme. C'est-à-dire que vous avez un client qui dit, voilà, dans un horizon de 3 à 5 ans, je veux céder. On va préparer la mariée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir tous les points d'amélioration qui peuvent se faire, de façon à ce que, quand la vente intervient, elle se fasse aux meilleures conditions possibles.
C'est le home staging du cabinet spécialisé.
C'est un peu ça.
Écoutez, ça parlera à nos auditeurs professionnels et particuliers. On a beaucoup de copropriétaires qui nous écoutent et c'est intéressant aussi qu'ils sachent comment tout ça se passe, peut-être pour rassurer et faire tomber un peu quelques fantasmes.
Et puis après, vous avez les intermédiaires comme nous, qui sont là pour vous aider. Hein. Sachant que il faut savoir, et ça c'est important de le dire, pour en terminer, c'est que le vendeur ne paye pas en fait les honoraires de l'intermédiaire. C'est toujours l'acquéreur qui paye. Donc pourquoi s'en priver, quoi.
Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie. Bonne fin de journée.
Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous nos auditeurs. Allez, ciao.
1000 000ième, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.